dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Ce mois-ci, Dissonance vous offre, pour clore l'année 2017, le parcours d'Alain Ferral que l'on va découvrir avec ses mots, ses émerveillements et sa passion du partage.
C'est assez curieux comme sensation. L'impression de redevenir un peu enfant, d'une part. Et puis alors, l'irrésistible besoin de faire partager, je crois que c'est que ça. Je crois qu'une passion, quelle qu'elle soit, mais elle est inachevée si on ne la partage pas.
Dans Dissonance, il sera question de réalisation de films, de collecte de la mémoire, mais aussi de musique.
Dans Dissonance, Alain Ferral nous parlera de zootropes et de praxinoscopes et nous surprendra en évoquant le pré-cinéma à travers des bricolages ingénieux qu'il propose aux plus jeunes.
Dans Dissonance, sera évoquée la mémoire d'Émile Reynaud, à qui Walt Disney, les studios Pixar et la grande communauté des amateurs de dessins animés doivent tant.
Ce qu'on appelle le pré-cinéma, c'est-à-dire toutes les inventions qui ont été faites avant les Frères Lumière, ce pré-cinéma est riche d'une multitude d'inventions rigolotes qui portent des noms que chaque inventeur attribue à des inventions parfois identiques, style zootrope, tomatrope. Et alors, ces inventions ont un avantage certain, c'est qu'elles permettent de montrer le fonctionnement de l'image animée.
Allez, moteur!
Vite, tiens le soleil qui va sortir, mes enfants!
Allez, moteur!
Vite au départ, allez!
Moteur!
Vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Oh putain, moteur!
Dissonance
avec
Alain Ferral
sur Radio Centrafrique.
J'aimerais faire une intro du genre « Je suis ici à la Souleillerie, dans le vallon de Marcillac, et à mes côtés, il y a Alain Ferral. » Alain Ferral qui a eu plusieurs vies. Première vie où il a creusé à la façon d'un ethnologue, à la façon d'un Georges Rouquier, toute la vie passée de nos ancêtres dans le vallon de Marcillac. Puis après, il y a eu une seconde période où ça a été un passionné de musique et d'accordéon. Il va nous en parler. Et puis maintenant, une période plus récente, même pas si récente que ça, on en parlera tout à l'heure, mais où il se passionne pour l'image animée, le dessin animé, le film. Et puis je crois qu'on ne pourra pas faire l'impasse dans cette émission sans évoquer la figure de quelqu'un que j'aime beaucoup, Brigitte Ferral, qui a longtemps accompagné Alain. Voilà, qui est aussi quelqu'un de passionné du patrimoine.
Dissonance
avec
Alain Ferral
sur Radio Centrafrique.
Donc Alain, bonjour.
Bonjour Joseph. Je te préviens, je te tutoie, on se connaît depuis trop longtemps.
Moi aussi, je tutoie tout le temps en radio, tout seul. J'aime pas faire les faux semblants. Donc Alain, le vallon de Marcillac, c'est quoi pour toi?
Oh, c'est une tranche de vie, sinon une grande partie de ma vie, puisque je suis arrivé dans le vallon en 71. Et je suis resté au collège public 32 ans.
Tu es originaire d'où alors?
Et je suis originaire de Barriac, tout en étant né à Rodez. Et mes parents, mon père a été un peu, il a fait un peu tous les métiers, commerçant, agriculteur, et ma maman était commerçante à Rodez.
Barriac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très loin, c'est au-dessus, sur les hauteurs, sur le Causse-Comtal.
Voilà, le Causse-Comtal, pas loin de Concourès, pas loin de Bozoul. Et d'ailleurs, c'est peut-être là qu'il y a eu un déclic dans ma toute petite enfance, à l'âge de 2 ans. J'en ai un très très vague souvenir. Un instituteur de Barriac a projeté un film muet à l'école un soir. Ce dont je me souviens, c'est très peu de choses. C'est un écran avec peut-être un Charlie Chaplin à l'époque, en noir et blanc, en muet. Mais la salle était assez bruyante pour que le film ne soit pas vraiment muet. Et donc c'est un souvenir extrêmement fantomatique. de quelque chose d'invraisemblable qui bougeait quelque part sur un mur ou un drap tendu, sans doute. Et oui, pourquoi pas, c'est peut-être là qu'il y a eu un déclic. Et après, ce déclic s'est réveillé beaucoup plus tard.
La spinage au la bouchon, si grette tout à pelo, si raquis pas galetto, si le tout là, qu'il est toi.
Dissonance
avec
Alain Ferral
sur Radio Saint-Afrique. Il y a plus de 50 ans, Alain Ferral, secondé par Brigitte Ferral, sillonnait avec sa caméra Super 8 le vallon de Marciac, le Cos-Comtal et la vallée du Lot.
Alors en fait, j'ai démarré avec une caméra Super 8. D'abord 8 mm. Je faisais des petits films avec les copains, même des petits films de fiction en noir et blanc. Et puis après, je suis passé très vite dans les années, fin des années 60 au Super 8, qui a détrôné le 8, et à la couleur. Et là, j'ai commencé à filmer un peu tout ce que j'avais autour de moi, les traditions, les fêtes locales, les événements.
Et en te disant, je vais en faire quoi ?
Au départ, je n'avais pas d'idée préconçue, je stockais. Et puis, il m'a semblé qu'on pouvait créer un lien entre pas mal de ces séquences, d'où le premier film, Le Saumanses, qui retrace d'une part certaines traditions, mais en même temps qui tourne toujours autour de la vigne et du vin, et des traditions de la vigne et du vin. Et puis après, un peu plus tard, Pels Camis, qui lui a pour thème la marche. Alors la marche autrefois pour survivre, pour travailler, pour aller loin. Et puis la marche peut-être d'aujourd'hui, basée davantage sur la randonnée de plaisir, et qui n'en est pas moins sportive.
Une conscience neuve des autres, un sentiment de différence enrichissante, accentué par l'effort nécessaire pour le découvrir ou le vivre, émerger du simple fait de marcher.
Dès le premier film, Le Saumanses, qui à l'origine était, disons, un film d'amis, de copains, de famille, destiné à être projeté justement pratiquement qu'à ceux qui avaient participé, a été dépassé très très vite par un certain succès, puisque le soir de la première à Marciac, on avait mis quelques 50 chaises et puis finalement il y a eu 700 personnes. Il a fallu aller chercher des bandes et rajouter tout ça. Ça a été vraiment quelque chose d'inouï, l'engouement des gens pour leur patrimoine, leur tradition, et donc c'était très réconfortant. Et quelques années après, j'ai remis ça avec Pels Camis, que tu connais, et là aussi on a une belle salle bien pleine, pareil, dans les 700 personnes, et j'ai été intronisé par la compagnie des testeurs de vin. Ça a été très gratifiant aussi.
Voilà. Ce sont les deux seuls films que tu as réalisés sur le vallon, alors ?
Alors après, non, on avait réalisé avec Brigitte des petits courts-métrages comme Les Demoiselles du Lot, le passage des chèvres en barque d'une rive à l'autre du Lot. Donc ce genre de court-métrage dont un a été nominé à un festival audiovisuel de Salassou, dont tu es à l'origine, je crois, me rappeler. Et merci pour ce prix, on a gardé le diplôme.
Et on est ici à quelques kilomètres de Goutrens, là où a été filmé par Rouquier, Georges Rouquier, Farbik et Biquefar. Est-ce que ça a eu une influence sur ton travail ?
Oui, oui, oui. Sûrement que j'en ai été inspiré, malgré moi, et à plusieurs reprises. Ce film, je l'ai vu je ne sais combien de fois. Chaque fois que je le vois, c'est mon adolescence, mon enfance à la campagne. J'y revois exactement les mêmes séquences. Et donc c'est vrai qu'il a été très, très moteur. Et il y a quelques années, j'ai été à Goutrens projeter Le Saumanses et Pels Camis aussi. Et Bon, vraiment, sans aucune prétention et en toute modestie, parce qu'à côté de Georges Rouquet, je ne suis qu'un petit caillou minuscule. Par contre, oui, on a retrouvé une ambiance, l'ambiance des gens du terroir qui aiment se revoir et surtout qui tiennent beaucoup à ce que ces choses-là ne se perdent pas et soient gravées sur la pellicule.
Est-ce que tu as conscience que tu as été un témoin, tu es un témoin de ces années 60-70 et que ces images, elles ont une valeur inestimable ?
Non, je ne suis pas vraiment conscient. Mais par contre, de temps en temps, oui, certains me disent « Mais heureusement que tu as fait ça, parce qu'on y revoit le pépé Antoine, la mémé Berthe. » Et oui, sans doute que pour beaucoup de gens, ça peut avoir une valeur sentimentale et patrimoniale que je n'ai pas tellement soupçonné au départ. On m'a demandé parfois de le repasser, ce film, mais je pense que... il faut attendre encore 20 ans pour que là, il ait une valeur historique plus probante.
Et Brigitte partageait cette passion aussi de l'image et du témoignage à travers l'image.
Complètement, même. Je pense qu'elle était, pour la mise en scène, bien meilleure que moi. Elle a beaucoup participé à l'élaboration des plans, aux costumes, aux décors, et puis à la mise en œuvre, au montage lui-même. Je pense même qu'il y a pas mal de choses au montage, sur le plan sonore, que j'avais carrément raté ou exagéré. Et elle m'a remis sur le droit chemin pour qu'il y ait une certaine sobriété. Moi, j'étais tombé un peu dans le péplum, parce que ça, c'était un petit peu facile. Mais il fallait en fait rester dans l'authentique et parfois... le film se contente des bruits de l'époque ou des gens qui parlent. Et les musiques viennent après.
Voilà. J'en ai connu vraiment, on pouvait appeler colporteur, une dame, une femme qui venait de l'Ariège et qui faisait la tournée avec de la petite mercerie, des bricoles, des lunettes, des trucs comme ça, avec une caisse sur le dos et des tiroirs.
Alors, tourner des films en Super 8, c'est pas seulement faire un film. Il faut savoir que quand on veut filmer quelqu'un, mettons un berger qui traite ses brebis, il faut d'abord aller le voir sans rien dans les mains, ou alors une bouteille de Marsillac, et puis on commence à discuter. Et puis on y retourne, et on recommence à discuter. On s'intéresse à ce qu'il fait, et c'est un vrai intérêt. C'est pas que avec le but inavoué de le filmer un jour. Et puis on y retourne comme ça un certain nombre de fois jusqu'à convaincre la personne que ce qu'on veut, c'est graver des souvenirs et qu'on a besoin de lui et qu'il doit participer. Et la plupart du temps, on arrive à convaincre les gens. Et après, on y retourne, on filme. Si ce jour-là, il pleut et que la séquence doit se faire à l'extérieur, eh bien, on ne la fait pas. On y retourne. Des fois, si c'est une séquence qui doit être tournée absolument au printemps, si le printemps est mauvais, on attend le printemps suivant. Donc, la plupart de mes films, oui, il a fallu 7 à 8 ans pour les faire dans ces conditions.
Alain Ferral.
Sur Radio Sainte-Afrique.
En Super 8, j'ai un peu arrêté, par force, parce que le Super 8 déjà est un peu dépassé. Quoique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il existe encore des clubs de Super 8, des gens qui tournent en Super 8, des associations qui font des films en Super 8, des festivals de films Super 8, et Kodak, mais en Amérique, continue à fabriquer de la pellicule qu'on peut se procurer relativement facilement auprès des clubs de Super 8. Mais le prix de revient est tel que, effectivement, j'ai arrêté. Et puis, comme tout le monde, j'ai fait un peu de caméscope, mais le montage vidéo, c'est une autre technique. Je ne suis pas très accro d'informatique et de technologie vidéo. Donc, ce que je fais en vidéo, c'est uniquement pour la famille, mais je ne fais pas de film en vidéo.
Tu étais pour nous le dernier indien, le Jean-Michel Jarre du rêve américain.
Tu étais le blues de Bruxelles à Memphis, l'ultime samouraï de la route 66.
Le jour où tu oublieras de vivre, j'oublierai d'être libre. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il y aura des motos? Est-ce qu'il y aura des anges en perfecto à frange?
Est-ce qu'on sera bronzé? Est-ce qu'on sera à Saint-Tropez? Est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux des chevaux?
On sentira tous un petit peu belle, c'est très beau. On sentira tous un petit peu triste. On sentira tous un petit peu suisse. Oh oui, le jour de la mort de Johnny. Non mais, n'exagère pas. On t'a trouvé qu'il s'agissait
d'un jour de la mort de Johnny.
Johnny, c'est rien. Johnny Winter, mais non. Tu étais cet homme faible et merveilleux, la dernière idole des jeunes devenus vieux. Hey, Thierry.
Est-ce qu'on évitera la bagarre de sosie pour retenir la nuit, la dernière de Johnny?
Et est-ce qu'il fera noir? Est-ce qu'il y aura de l'espoir? Est-ce que l'ange Gabriel aura brûlé ses ailes? Et
est-ce qu'il fera gris? Est-ce qu'on verra Tennessee? Est-ce qu'on pleura des larmes? En lisant les journaux.
Oh oui. On sentira tous un petit peu beige. On sentira tous un petit peu triste. On sentira tous un petit peu suisse. Oh oui. Le jour de la mort de Johnny.
Le jour de la mort de Johnny.
Cercueil couvert de roses, y'a un drapeau américain, une croix en cuir clouté, et les deux paires d'un opticien.
Dans les allées de Notre-Dame,
ouais.
Une main de Harley Davidson, traversant en cercle de feu,
vroom, vroom.
Sans déranger personne.
Ah ouais. Est-ce qu'il fera nuit? Est-ce qu'il y aura des huskies tatoués sur les deux bras du Christ sur la croix, amen.
Oh. Est-ce qu'il fera froid? Est-ce que ta femme seront là? Est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux d'Universal?
On sentira tous un petit peu belge. On sentira tous un petit peu triste. On sentira tous un petit peu suisse. Oh oui, le jour de la mort de Johnny. Allez, vas-y, Jean.
Le jour de la mort de Johnny, bah, tu donnes tout pour
ouais, un
petit
peu.
Le jour de la mort de Johnny.
Pardon, ouais. Excuse-moi, t'es rien.
Le jour de la mort de Johnny.
Son casque vient de s'arracher.
C'est
la fin.
Le jour de la mort. De Johnny. Johnny.
Je t'aime. Vraiment.
Tu veux toujours le dernier mot?
Bah, toujours. Merci.
Dissonance
avec
Alain Ferral
sur Radio Sainte-Afrique.
Ta seconde de vie, ça serait plutôt une passion pour la musique. Tu peux nous en parler, Alain? Alain Ferral.
Alors la musique, oui, bien sûr, c'est même une passion égale, puisqu'il y a très longtemps aussi que je bricole les instruments. Mais attention, Joseph, je ne suis pas un vrai musicien. Je dirais même, comme quand on me demande de parler de ça, que je suis même un imposteur de la musique. Mais alors ça me plaît beaucoup ce terme, parce que ça consiste à jouer de la musique d'oreille sans notion de solfège, même s'il y a beaucoup de travail derrière. Ça reste amateur, mais le mot amateur, c'est celui qui aime, hein, le vrai sens du mot amateur. Donc je suis un vrai amateur, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas un musicien qui a fait des études musicales. J'ai tâté un peu de tout, de l'harmonica, de la guitare, et puis de l'accordéon diatonique, passé la cinquantaine, un peu parce qu'on m'y a obligé. En fait, un ami m'a inscrit dans un club, à l'MJC de Rodez, et j'y suis allé, mais pas convaincu du tout. Et puis finalement, voilà, je suis entré en religion diatonique, comme ça, un peu par hasard. Et puis, bon, j'y suis resté, joué avec des groupes, de la musique traditionnelle, des balles folk. C'était beaucoup à la mode dans les années 70, 80, et même 90, et même toujours. Et puis, petit à petit, oui, accompagner des chanteurs, jouer avec d'autres instrumentistes, parce que faire de la musique tout seul, c'est pas marrant. Et puis c'est même assez frustrant. Je crois que la musique, il faut la partager. Voilà. Pas seulement avec un auditoire ou avec des danseurs, mais avec d'autres musiciens.
Tu es arrivé à sortir du bal traditionnel, de la musique populaire occitane ou irlandaise, pour t'ouvrir à d'autres musiques ?
Oui, avec mes amis, on s'est ouvert sur les musiques des pays de l'Est, et sur le musette, pourquoi pas aussi un retour en arrière sur les chansons 1900. En fait, l'instrument, ce petit accordéon diatonique, qui n'est pas l'accordéon chromatique, pour ceux qui ne connaissent pas, ne possède pas toutes les notes, mais par contre, a un avantage certain, c'est sa maniabilité, la rapidité avec laquelle on peut apprendre les premiers morceaux, et puis alors après, ça permet de se passionner et puis d'aller beaucoup plus loin. Le chromatique demande peut-être davantage d'études musicales. Voilà, le diatonique, il est à la portée de beaucoup de gens. Je ne peux que le conseiller, si vous avez un club d'accordéon diatonique dans le secteur, allez-y. Voilà, vous serez vite convaincu, j'espère.
Écoutant, je pense à Marc Perron, et qui lui aussi avait une passion pour le cinéma et pour l'accordéon, qui a toujours une passion pour ces deux choses.
Oui, ça aussi, ça a été un déclic. Perron, je l'ai découvert à un festival à Avignon, il y a fort longtemps, il y a 25 ans au moins. Et je l'ai donc avec Brigitte, on a été le voir. Il jouait, il accompagnait des films muets, notamment des films de Renoir, des films muets qu'il accompagnait avec son instrument. Aperçu que cet instrument, c'était pas un simple instrument de musique. C'est un instrument qui a un souffle, qui respire, comme il l'explique lui-même, et qui permet d'obtenir des effets sonores, des bruitages, et pas seulement un accompagnement musical. Et ça, oui, ça a été un déclic. Et j'ai toujours rêvé d'accompagner, de faire un peu de ciné-concert comme lui. Bon, j'en ai fait un peu. J'ai accompagné un dessin animé dans une soirée. Et puis dernièrement, avec le groupe Les Lieurs de Son, notre principe, c'était de jouer de la musique sur des images. Alors, on ne pourrait pas appeler ça ciné-concert, mais diapo-concert. Donc, tous les morceaux de musique que l'on faisait pendant une soirée étaient illustrés par un diaporama. Et alors, comme on joue beaucoup des pays, des musiques des pays de l'Est ou de l'Ouest ou du Centre ou du Sud, évidemment, on se débrouillait pour trouver des images correspondantes. C'était toujours assez motivant pour le public
D'accord. Et tu as donc sillonné plein de petits villages en Aveyron et tu as retrouvé ce que tu recherchais à travers tes films Super 8, une authenticité, cette vie des petits villages, des familles.
Oui, jouer pour un public un peu, disons, un petit peu convaincu et initié, parce que le bal folk, n'importe qui peut y participer, évidemment. Mais c'est vrai que ça s'adresse à des gens qui ont une petite culture commune ou qui ont envie d'avoir une culture commune ou alors de la découvrir. Tout ça, ça fait des liens. Hein. Et puis un bal folk, c'est souvent des retrouvailles ou des découvertes et entre initiés ou entre personnes qui veulent découvrir ce qu'est un bal folk. Le lien est très vite fait. D'ailleurs, ce que les gens ne savent pas toujours quand ils viennent dans un bal folk, c'est que la plupart des danses sont collectives. Une danse collective dans un bal folk, c'est une danse où on vient vous prendre par la main et on vous apprend quelque chose. Donc il y a un échange. Et ça, c'est sûrement particulier au bal folk. Ça, c'est une valse musette jouée avec un instrument diatonique, mais en fait avec beaucoup plus de notes, puisque j'ai un accordéon, trois rangées, au lieu de deux rangées, voire deux rangées et demie. Avec trois rangées, donc davantage de notes, davantage de possibilités de répertoire. Mais ça reste un instrument, comme dit Marc Perron, qui est peut-être à l'inverse du chromatique, à sa personnalité. Il respire. Voilà. Souffler, respire. Bon, je peux faire un petit, je sais pas moi, que je dois faire un petit tango. Tango argenté.
Dissonance
avec
Alain Ferral
sur Radio Sainte-Afrique.
Now let me take you to the movie Max so I can hold your hand. But ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And a double barrel behind the door that waits for me, I know. Oh, climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show.
I only see you once a week, and it's when my work is through. I break new ground the whole week long when my mind sets straight on you. And I've polished up her old horse back, and she looks good, I know. So climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand? For it ain't that I don't like your house, it's just that double man. And that double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. Straight on you, and every time I try to smile, my heart it breaks in two. I slick myself for Saturday night, cause there's one thing I know. I'm gonna take my Maggie dear to the Western Picture Show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand? But it ain't that I don't like your house, it's just that old man and that double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show.
L'image, l'histoire, la musique, des voix qui vont conduire Alain à découvrir la préhistoire du cinéma.
C'est une aventure musicale, elle dure des années, elle n'est jamais finie. Même quand elle ralentit, elle peut recommencer. Là, même si pour le moment, je fais moins de musique de groupe. Peut-être que je m'intéresse davantage aussi au cinéma. Toutes ces passions s'entremêlent sans se concurrencer, puisque la musique et l'image, ça doit toujours marcher ensemble. Émile Reynaud lui-même, là, dont on parlera peut-être tout à l'heure, se faisait accompagner par un pianiste, Gaston Paulin, qui écrivait les partitions en fonction donc, des premiers dessins animés dessinés par Émile Reynaud lui-même. Donc ces partitions existent toujours, et quand on repasse certains dessins animés qui ont pu être sauvés de la destruction, parce qu'Émile Reynaud, en fin de vie, a détruit pas mal de ses productions, parce qu'il est mort un peu ignoré, et maintenant, ma foi, une association essaie de le faire revivre, avec beaucoup de bonheur, cette association, donc, qui est dirigée par l'arrière-petite-fille d'Émile Reynaud, Sylvie Serens.
Quelqu'un que tu as rencontré ici ?
Voilà. Alors, Sylvie Serens, en fait, je l'ai connue il y a pas mal de temps, grâce à Dominique Ozel. Elle venait de temps en temps dans l'Aveyron, depuis sa région parisienne. Et puis surtout, elle a assisté un soir au film « Pels Camis ». Et d'ailleurs, on lui a demandé de dire deux ou trois mots sur le pré-cinéma. Dominique Ozel en avait profité pour en dire aussi quelques-uns et écrire un article à la suite de cette soirée. Donc les liens se sont créés assez vite, mais en fait, il n'y a qu'un an que tout d'un coup, un petit peu par hasard, en retrouvant des stocks de vieux bricolages mis de côté pour la retraite, et la retraite étant en fait là, je me suis replongé dans le bricolage d'objets du pré-cinéma. J'ai fait une vitrine dans laquelle donc il y a une collection qui n'est pas complète, bien entendu. Une collection, c'est jamais complet. C'est ça ce qui en fait l'intérêt, c'est qu'elle peut durer toute la vie. D'appareils du pré-cinéma ou de projecteurs de cinéma, dont certains sont des projecteurs jouets, ou alors à mi-chemin entre le jouet et le projecteur de salle de cinéma.
Tu parles de pré-cinéma. Quand commence le cinéma ?
Ah, alors le cinéma, peut-être on peut dire qu'il commence à la lanterne magique finalement, puisque les premières projections de lanterne magique proposaient déjà des images animées.
Lanterne magique,
alors,
c'est quoi ?
Une lanterne magique, c'est une boîte avec un objectif et puis une plaque de verre sur laquelle est dessinée une scène. Et cette plaque de verre peut être projetée sur un drap, sur un mur, par une lampe à pétrole, une bougie, et plus tard par des ampoules électriques.
C'est l'ancêtre de l'appareil à diapo.
C'est l'ancêtre des projecteurs de diapo. Et les plaques sur verre, avec des dessins d'époque, sont les ancêtres des diapos. Les premiers projecteurs de lanterne étaient parfois équipés de systèmes pour faire basculer l'image, pour la faire bouger d'une certaine façon. Et tout cela proposé dans une ambiance un peu fantasmagorique, les sujets étant souvent des sujets fantasmagoriques. Ça a donc de procurer pas mal de sensations, voire des peurs, des effrois à un public dès le XVIe siècle, dès le XVIIe siècle.
Donc pour toi, ça, cet appareil, c'est le début du cinéma. Pourtant, ça ne bouge pas beaucoup.
Alors, en fait, moi...
C'est pas les Frères Lumière, le début du cinéma, on dit souvent...
Alors, les Frères Lumière n'ont fait que perfectionner l'invention des inventions précédentes. Beaucoup de pays étrangers s'attribuent la paternité du cinéma. Et je ne ferai pas honte à la France en disant que, malgré tout, les Frères Lumière n'étaient pas les seuls. Par contre, les Frères Lumière ont le grand mérite de transformer le kinétoscope d'Edison en projection lumineuse. Alors le kinétoscope, c'est en fait une grosse boîte et avec un œilleton pour regarder. Un film qui se déroule à l'intérieur de la boîte, il n'y a qu'un seul spectateur qui pouvait le voir, en mettant bien entendu une pièce, un dollar. Ou... Donc ça, c'est le kinétoscope d'Edison que j'ai essayé de reproduire en maquette, en carton, à mon niveau, pour les enfants. Donc ce kinétoscope, Edison avait déjà fabriqué des films sur pellicule, inflammable d'ailleurs, et les Frères Lumière, eux, l'ont transformé, ce kinétoscope, en appareil de projection qui permet de projeter à une salle entière et non pas à un seul spectateur une image. Pour cela, il fallait inventer un mécanisme qui permettait donc de faire passer une image après l'autre et un obturateur pour cacher les passages de chaque image. Et ça, oui, c'est une invention des Frères Lumière. Et là, on a pu parler enfin de cinéma. Mais en fait, dès que l'homme des cavernes a projeté son ombre sur une paroi, c'était déjà du cinéma. Enfin, du cinéma, du pré-cinéma. Le terme cinéma, d'ailleurs, le mot cinéma était... je ne sais plus qui a inventé le terme exactement. Peut-être que c'est les Frères Lumière, d'ailleurs. Et sinon, ça s'appelait le kinorama. Il y a eu plein de... Là aussi, tous les inventeurs donnaient un nom à leur invention. Et petit à petit, oui, le terme cinéma a été implanté. Je pense que c'est à l'origine des Frères Lumière et leur première projection en 1896, je crois, dans une petite salle parisienne. Et alors, à ce sujet, je peux donner une anecdote. L'émotion du public à la première projection des Frères Lumière, c'était la sortie des usines de lumière qu'il avait filmée. Il avait filmé son personnel. Et alors moi, cette sensation de public qui découvre une image qui bouge, je l'ai eue avec des élèves. C'était environ en 65, par là. J'étais instituteur remplaçant dans la vallée du Tarn, à Combradé de Riquista. Et j'ai eu l'idée d'amener un petit projecteur 8 mm et à manivelle et de leur passer un film de Charlot. Et ils sont tombés en extase et en admiration devant... ce petit Charlie Chaplin en noir et blanc qui bougeait sur un écran. Et parce qu'à l'époque, mais je n'en avais pas vraiment conscience, il n'y avait pas de télévision dans les fermes et les gamins n'allaient jamais au cinéma. Donc, je leur ai fait un peu à l'instar des Frères Lumière. J'ai eu cette joie immense de voir des gamins exploser d'étonnement et puis me redemander incessamment de repasser le même film parce que c'était tellement magique. Et je me souviens d'ailleurs avoir passé le même petit film de 2 minutes, là, au moins 10 fois de suite, et après j'avais mal au poignet, parce que j'ai attrapé le crampe au poignet à force de tourner la manivelle. Donc j'étais déjà dans le pré-cinéma, quelque part, moi aussi, avec le recul. Donc tout ça n'est qu'invention qui se renouvelle sans arrêt. Et aujourd'hui, c'est terminé. Mes dernières années d'enseignant, quand j'amenais un projecteur avec de la pellicule en classe, les élèves ne comprenaient pas d'où sortait l'image. Ils me disaient, mais où est le vidéoprojecteur? Pourquoi vous n'avez pas un écran de télé? Et je dis, mais oui, mais c'est de la pellicule. Alors j'amenais de la pellicule, comme ça, là. Je la déroulais devant eux. Et puis je leur disais, allez-y, regardez, là. Et vous voyez bien une succession d'images qui se ressemblent. Et puis si au bout de 30 images, on s'aperçoit que ce n'est plus tout à fait la même image. Donc si on les regarde une après l'autre à toute vitesse, on a en fait le mouvement. Et c'est la persistance rétinienne qui fait qu'on a l'illusion du mouvement en regardant des images. Et alors les premiers petits projecteurs jouets, eux, ils n'avaient que deux images qui décomposaient un simple mouvement. Quelqu'un qui frappe avec un marteau sur une enclume, par exemple, il lève le marteau, il le descend. Et puis il le relève, il le redescend. Donc les premiers petits projecteurs jouets ont deux objectifs.
On en voit un là-devant.
L'objectif d'en haut projette l'image supérieure, puis il y a un volant ou alors l'ampoule s'éteint, et c'est la deuxième ampoule, le deuxième objectif, qui projette la deuxième image, et ainsi de suite, et l'illusion du mouvement est là. Parce que le cinéma, ce n'est qu'illusion. Ce n'est que ça, et c'est ça qui est magique.
J'aime les femmes, je n'aime qu'elles, sous toutes les coutures je les aime, en robe de bure, en robe de bal, j'aime les homosensuels. Je sais pas si c'est Dieu ou le diable qui m'a fait homosensuel, je sais pas si c'est bien, si c'est mal, y a que le féminin qui m'aille, qui se plaint de ça, c'est normal. Partout, partout je mets deux ailes, pour moi ce sera une femme ou rien, je suis un homosensuel. Quand je ne suis pas amoureux, le macho qui est en moi sommeille. Ça fait mal quand il se réveille, je sors tout seul, je rentre à deux. Je rôde la nuit comme un chacal, dans toutes les boîtes à tango. Je danse ma danse des sept voiles, je ne suis pas un salaud, mais j'assure et je fais ce qu'il faut pour séduire la demoiselle. Et partout je lui mets le zèle, pourvu qu'elle soit homosensuelle. Quand j'en croise une avec deux ailes, je me fais doux comme un agneau. Le macho prend du plomb dans l'aile, le coureur de jupe est KO. De chien fou je deviens fidèle, très sage et presque comme il faut. Je ne vois plus rien autour d'elle, pourvu qu'elle dise jamais non. Quand je prends ses jambes à mon cou, depuis le plancher jusqu'au ciel, de son ombre je suis jaloux, on est deux homosensuels. Je lui fais l'amour tout le temps, comme font l'amour certains hommes. Toujours plus elle veut qu'on se donne, tous les deux devant tous les gens. Avec les yeux, avec les mains, avec le sentiment sincère qu'il n'existera pas sur terre deux amants plus forts et plus grands. Mon regard ne la quitte pas, c'est pour ça qu'elle est la plus belle. Je sais qu'elle a besoin de moi pour être une homosensuelle.
Dissonance
avec
Alain Ferral
sur Radio Sainte-Afrique.
Et après, le génie de Émile Reynaud, ça a été de sur le principe du praxinoscope, d'imaginer un appareil beaucoup plus complexe et qui permettait de passer au moins 500 images et d'en faire enfin un film. Il faut savoir que c'est lui-même qui dessinait toutes les images.
Le praxinoscope Kesako, c'est un jouet d'optique permettant de recréer l'illusion du mouvement. Ce praxinoscope se compose principalement d'une cage centrale avec 12 petits miroirs et d'un tambour, à l'intérieur duquel on dispose une bande cartonnée représentant 12 poses d'un sujet ou d'une scène en mouvement. Et en faisant tourner rapidement le tambour et en regardant les images qui se reflètent dans les miroirs, on voit la scène s'animer sans saccade. Et ce petit spectacle est visible par plusieurs personnes à la fois.
C'était donc avant Walt Disney l'inventeur du dessin animé ?
Tout à fait. Émile Reynaud, on peut le qualifier d'inventeur du dessin animé. Et c'est bien qu'on reparle de lui de temps en temps. C'est un patrimoine qui a été reconnu par l'UNESCO. Il figure maintenant dans tous les bouquins de l'histoire du cinéma. Et Walt Disney lui-même s'en est inspiré. Et dans les années 50, était venu découvrir Émile Reynaud dans un musée à Paris. Et donc Walt Disney lui-même a rendu hommage à Émile Reynaud.
Et toi, ton génie à toi, Alain, c'est que maintenant tu t'es investi dans cette association des amis d'Émile Reynaud et tu arrives à fabriquer et à éditer, dans le cadre de l'association et de leur bulletin, des outils cinématographiques qui pour les enfants. Et tu peux nous montrer un petit peu?
Alors,
je t'accompagne.
Alors là, en toute modestie, parce que je m'inspire aussi beaucoup de bricolage précédent. Dans l'association des Amis d'Émile Reynaud, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jacques Remise, qui se faisait appeler Jacques Remise. C'était un bricoleur de génie qui a beaucoup travaillé pour les éditions enfantines, les revues enfantines, avec des bricolages pour les enfants. Il a énormément imaginé de bricolages, des centaines, voire des milliers. Il n'y a pas très longtemps, donc il est décédé. Il est décédé. Et un peu par hasard, quand j'ai reproduit ses premiers bricolages, j'en ai retrouvé certains.
Alors
comme le téléviseur à sable.
Voilà, Alain nous montre la télévision à sable, le téléviseur à sable.
Alors, c'est un petit cube de carton. À l'intérieur, alors tout ça, c'est bricolé, ça peut être bricolé par des enfants. C'était le but de Jacques Remise, ne faisait que des bricolages.
Jacques Remise, c'est lui qui a créé ce...
Voilà, il a créé ce petit jouet. Ah. Donc, j'ai retrouvé les plans dans un bouquin édité par lui. Donc, c'est un petit cube. À l'intérieur, il y a un petit tambour avec un bouchon traversé par une aiguille. Et sur ce tambour, il y a 5 images qui montrent une poule qui picore. Donc, ce mouvement est décomposé en 5 images. Hein, la poule a le bec en bas, ouais. Puis elle remonte le bec, mmh. Et puis elle replonge le bec et elle picore. Donc, ce petit téléviseur, il n'a pas de moteur électrique. Il y a un petit entonnoir à carton. On met du sable et c'est le sable qui est le moteur. Alors, par exemple, ça, c'est le cinéma de poche de Jacques Remise. On le fait avec une boîte d'allumettes et deux dessins. Alors, on bricole la boîte d'allumettes et on fait circuler une partie de la boîte et on a un mouvement en deux dessins. Voilà. Un personnage, en l'occurrence, Émile Reynaud lui-même. Une caricature d'Émile Reynaud par Jacques Remise. Donc, il lève le bras, il le baisse. Donc, c'est ce qu'il appelle le cinéma de poche. Alors, après, il a élaboré des trucs beaucoup plus compliqués. Par exemple, ce qu'il a appelé un théâtre optique. Alors, avec deux boîtes d'allumettes, un bouchon et du carton, là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que là, c'est le système de l'obturateur qui est expliqué. Tu vas comprendre. Quand je fais tourner la boîte, là, il y a une image. C'est une poule qui picore aussi. Mmh. L'obturateur cache le passage de la deuxième image. Et quand la deuxième image apparaît, d'accord. Elle est fixe. D'accord. Donc on la regarde une fraction de seconde. Mmh. Et ainsi de suite. Donc l'obturateur, c'est ça.
D'accord. L'obturateur.
Alors, mmh. Et ici, il y a un simple système d'engrenage qui fait qu'une image passe après l'autre.
Oh, c'est très
que l'obturateur, c'est le principe du cinéma avec un obturateur. Donc s'il appelle ça le théâtre optique, c'est absolument... fabuleux, de génie simplifié de bricolage. J'ai trouvé ça extraordinaire. Quand on le fait tourner un peu vite,
on a la
poule qui picore. Alors après, il y a par exemple le kinématoscope. Alors ça, c'est 4 images.
Comme un tambour en carton.
C'est un tambour d'images avec 4 images. On fait tourner.
D'accord.
Et à la vitesse convenable, et on a pareil. Voilà. Alors je me suis mis en image, par exemple.
D'accord.
Là, je me suis photographié parce que là aussi, l'intérêt de tout ça, c'est de s'approprier les inventions, de se les prendre à son compte. Donc là, je suis en 4 images, quelqu'un qui enlève son chapeau
et qui
le remet. Tu vois. Ouais. Alors il faut tourner à la bonne vitesse. Mais 4 images, c'est pas suffisant pour faire quelque chose de. Alors là, par exemple, oui, il y a davantage d'images. Toujours inspiré par les bricolages précédents, j'en arrive à produire mes propres bricolages.
D'accord.
Ça, il n'y a pas de plan, c'est moi qui l'ai inventé, celui-là. Un petit bâti en bois, avec un système à feuillotage.
Et on voit deux boxeurs qui boxent.
On voit deux boxeurs qui boxent.
Il y a combien d'images, là, à peu près
Là, il y en a 12, je crois.
12,
13, 14, 15, 16, 17. 17.
17 images, d'accord.
18 même. 18 images.
D'accord.
18 images. Tiens, 18 images, c'est pas anodin. C'est la vitesse, 18 images par seconde, c'est la vitesse du film Super 8.
D'accord.
Pour avoir une impression de mouvement convenable, on s'est aperçu qu'il fallait 18 images à la seconde. À 8 mm, c'était que 16 images à la seconde. Et avant, les premiers caméramans des Frères Lumière, là, c'était même carrément moins, parce qu'il n'y avait pas de moteur électrique. La caméra était dotée d'une manivelle. Alors, petite anecdote en passant. Les frères Lumière et puis les autres, Pathé et tout, après, envoyaient à l'étranger des reporters avec une caméra à manivelle. Et il fallait d'abord leur apprendre le bon rythme. Et le bon rythme, c'était de tourner la manivelle en chantant dans sa tête le régiment de
Saint-Brémeuse.
Et ça, ça donnait la bonne vitesse, qui était environ de 12 images par seconde.
D'accord.
Alors, c'est vrai que quand on reconstitue ces films, maintenant, ils sont hachés menus, parce qu'on n'a plus la bonne cadence pour les regarder.
D'accord.
Les projecteurs actuels sont trop rapides.
D'où
l'impression que les Charlie Chaplin vont trop vite.
Et est-ce que tu interviens dans les classes avec tes réalisations ?
Non, là, pour l'instant, non. J'interviens qu'au niveau de l'association et des bulletins. Je sais que beaucoup d'enfants les fabriquent. On m'en a demandé. J'ai toujours envoyé avec grand plaisir les bricolages en question. Mes petits-enfants ont fabriqué le téléviseur. Du coup, dans la famille, du côté de mon beau-frère, il y a d'autres enfants qui ont voulu le fabriquer. Après, il y en a eu d'autres, je ne sais plus où, on les a envoyés. Finalement, ça se diffuse tout seul.
Voilà. Ce bulletin pour l'auditeur qui a envie de faire partager à ses enfants, on le trouve
alors, où ? Il est très facile il faut s'abonner, devenir adhérent à l'association Les Amis d'Émile Reynaud.
On va sur internet,
on tape le site Amis d'Émile Reynaud, et puis là normalement on doit trouver les coordonnées. Il n'y a pas de raison, Amis d'Émile Reynaud, les coordonnées de l'association. Et puis après, il suffit de correspondre. Et puis, alors la cotisation, je ne sais plus combien elle est, d'une vingtaine d'euros par an peut-être. Et je ne me rappelle plus.
J'y suis allé hier, on peut avoir en cliquant sur la colonne de gauche à Praxinoscope. On voit ce que tu fais, Alain Ferral, dans ce bulletin.
Oui, parce que j'envoie aussi les vidéos de ce que je réalise. Et alors, par exemple, dans les réalisations, j'extrapole, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps un petit bricolage qui avait été édité par le journal Tintin. Alors je l'ai fabriqué tout en l'adaptant. Voilà, c'est un petit western. Alors toujours le principe du feuillotage. Le matériel ne varie pas, c'est un bouchon. L'axe, c'est un rayon de vélo. Pour soutenir les axes, c'est des petits dominos. Il faut que ce soit facile à construire.
Ah oui, tout à fait.
Il faut que ce soit facile à construire. Alors après, de temps en temps, j'essaie de perfectionner. Là, par exemple, j'ai fait un système à feuillotage avec des réglages possible, un écran de visualisation.
D'accord.
Voilà. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est le bruit. D'ailleurs, quand on fait du cinéma Super 8,
on
a le bruit du projecteur. Et ça, c'est t'as le dernier petit truc que j'ai proposé pour Noël. Alors, c'est un truc tout simple. C'est une image qui passe du noir et blanc à la couleur.
Oh là là, ouais, super.
Voilà. Et alors même, si on regarde les yeux, on a une animation.
Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et c'est tout simple.
C'est tout simple.
Et ça, on peut le trouver dans le dernier bulletin ou pas encore ?
Je pense que le bulletin de Noël, oui. Puisque Sylvie m'a dit qu'elle le mettrait dans le bulletin de Noël.
Et on le trouvera sur Internet en Noël.
J'ai un classeur. Je vais te dire à peu près tout ce que j'ai fait déjà. Une bonne quinzaine de réalisations pour l'association.
Moi, je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, barre d'opéra, parc en vacances.
Là,
ma vedette, c'est toujours toi.
Une question, Alain, ça t'apporte quoi tout ça ?
L'impression de redevenir un peu enfant, d'une part. Et puis alors, je sais pas, l'irrésistible besoin de faire partager, je crois que c'est que ça.
Voilà, faire partager alors, comme tu faisais avec les films en Super 8, musiques, les balles folles.
Voilà, je crois qu'une passion, quelle qu'elle soit, elle est inachevée si on ne la partage pas. Et là, ça me paraît intéressant de faire partager aux plus jeunes, surtout. Aux plus jeunes. Surtout qu'ils sont gavés de tablettes, de vidéos et d'images dont on ignore la provenance. Et qu'on n'en est pas, on ne maîtrise rien du tout là-dedans. Et dans tout ce pré-cinéma, là, on redevient inventeur. Et on redevient, on se met dans la peau des pionniers. Et bon, c'est pas du passéisme, parce qu'on peut s'approprier. D'ailleurs, si on va sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui s'approprient aussi ces inventions, qui font des praxinoscopes modernes absolument fantastiques, avec des centaines d'images, des trucages pas possibles. Et donc, en fait, tous ces pionniers continuent d'inspirer, même les chercheurs d'aujourd'hui, avec leur matériel d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Alain, ça pourrait être les mots de la fin, mais je ne voudrais pas finir cette émission sans qu'on évoque Brigitte.
Oui, Brigitte donc a participé aux deux films, aux deux longs métrages qu'on a fait ensemble. Et puis donc dernièrement, la médiathèque de Rodez lui a rendu un hommage qui m'a beaucoup beaucoup touché.
En 2017, là, c'était il y a quelques mois.
2017, il y a quelques mois, une exposition de photos extraites d'un ouvrage qu'elle avait fait sur les cabanes de vignes, les Oustalous des vignes. Ouvrage qu'elle n'a pas pu éditer et terminer puisque la maladie l'a emporté, le cancer l'a emporté. Je dis le mot cancer parce que je crois que le terme maladie, c'est quelque chose qu'elle ne voulait jamais entendre. Voilà, elle voulait rester les yeux grands ouverts tout le temps et puis ne rien ignorer de ce qui l'entourait, de ce qui l'attendait. Et dans ce sens, elle m'a... Elle est restée dans ma mémoire et pour toujours. Donc cet hommage a été particulièrement émouvant. Et cet hommage s'est suivi de deux petites manifestations, des lectures de textes, pas que les siennes d'ailleurs, et à deux reprises. Donc tout ça dans le cadre de la pré-estivale.
Oustalou des Bignes de Brigitte Ferral.
Les maisonnettes de vignes ont-elles une âme ? Celle que leur auraient donnée les vignerons bâtisseurs au gré des besoins et des contraintes d'une époque, au gré de leur imagination pratique et fertile, de leur rapport avec une nature alternativement généreuse et capricieuse. L'ouvrage posthume de Brigitte Ferral nous propose d'approcher ces vieilles dames de pierre, de lauzes et de bois, dont la présence humble et discrète, la conception et le rôle au flanc des coteaux et au creux des vallons du Rouget de Marcillac, n'est jamais anodine.
Toutes ces passions que tu partages avec les enfants et les nouvelles générations et leur donner à comprendre que effectivement, que l'image c'est qu'illusion et que derrière tout ce qu'on peut voir dans l'ordinateur, etc., il y a quand même de l'humain.
Il y a beaucoup d'humain et surtout beaucoup d'imagination, beaucoup de génie, beaucoup d'inventivité. Et quand on se plonge un peu dans le détail, par exemple, du théâtre optique d'Émile Reynaud, on est absolument confondu qu'à cette époque-là, quelqu'un ait pu imaginer des systèmes optiques et mécaniques aussi complexe et aussi ingénieux que le sien, que ce fameux théâtre optique, qui malheureusement à la fin de sa vie a atterri dans les flots de la Seine. Quand l'invention de Ferrer-Lumière est arrivée, Émile Reynaud, désespéré du manque d'intérêt pour son théâtre optique, a jeté une partie de sa production et de ses appareils dans la Seine. Il faut quand même se rappeler que environ 500 000 personnes ont assisté pendant une dizaine d'années aux projections de ce qu'il appelait les pantomimes lumineuses, accompagnées par un pianiste, au musée Grévin. Voilà. Et ça, on peut le retrouver aussi sur les sites qui montrent comment fonctionnait le théâtre. Il suffit de taper théâtre optique Émile Reynaud. Et on verra à quel point ce qui caractérise les inventeurs, beaucoup de ces inventeurs-là, c'est qu'au départ, ce ne sont pas toujours des scientifiques, bien que ce soit souvent le cas, mais des gens dotés d'une imagination et d'une inventivité absolument incroyables.
Merci beaucoup, Alain Ferral.
Cette émission, que vous pouvez télécharger sur le site de Radio Sainte-Afrique, sera rediffusée mercredi 27 décembre à 14h et samedi 30 décembre à 16h. Vous trouverez sur le site internet de la radio des liens vous permettant de compléter cette émission. Toute l'équipe de Dissonance vous souhaite des rêves à n'en plus finir,
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Salut
et fraternité.